franceinter.fr.
C'est l'heure de la revue de presse avec Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Cinq ans de guerre en Syrie et Libération qui tente ce matin de reprendre le fil perdu des événements. La Syrie, ce sont des guerres dans la guerre. Les fronts se sont démultipliés, le conflit devient toujours plus complexe et ingérable pour la communauté internationale. La seule chose tangible, semble nous dire Luc Mathieu, c'est la population, ces Syriens qui n'ont pas encore fui la guerre, qui sont pris au piège de ce conflit à multiples fractions. Libé nous propose donc de zoomer sur la carte de la Syrie. À chaque région, chaque ville, son enchevêtrement de belligérants entre l'armée de Bachar al-Assad appuyée par les Iraniens et les Russes, les rebelles plus ou moins coordonnés et plus ou moins soutenus par les États-Unis ou l'Arabie Saoudite, les Turcs, les Kurdes, la coalition internationale, sans oublier, bien sûr, le groupe État islamique qui défend ce qui lui reste de territoire. On zoome surtout sur la ville d'Alep, témoignage d'un ancien fonctionnaire dans cette ville dont les quartiers contrôlés par les rebelles sont assiégés par l'armée depuis la mi-juillet. Assiégés, bombardés et affamés. On a puisé dans les stocks. Il ne reste plus grand-chose, alerte Abou Ayam, qui est père de 10 enfants. Mais le pire, ce n'est pas le manque de denrées alimentaires, nous explique-t-il. Le pire, c'est la cupidité invétérée des commerçants qui organisent la pénurie pour faire monter les prix. La guerre du ventre et du portefeuille, c'est l'une de ces guerres dans la guerre en Syrie que nous raconte Libé. Ce matin. Le Figaro, lui, nous emmène en Libye, où Daesh, nous dit-on, est en déroute. Les djihadistes mis en grande difficulté par les bombardements américains sur Sirte, la ville dont ils avaient fait leur base arrière. Les 7 frappes américaines menées depuis lundi, c'est peut-être ce coup de pouce qu'attendaient les troupes pro-gouvernementales libyennes pour en finir avec l'État islamique, lequel ne contrôle plus que quelques quartiers de Sirte, alors qu'il avait assis son pouvoir cet hiver sur un territoire de 200 km² sur la côte libyenne. Mais attention, nous dit le Figaro, Daesh perd du terrain mais ne renonce pas à ses projets terroristes. La transformation stratégique a déjà commencé dans les rangs djihadistes, nous explique Isabelle Lasserre. Une dispersion des troupes, un éparpillement des combattants au sein d'une multitude de cellules clandestines dissimulées parmi les populations syriennes et irakiennes, mais surtout au cœur des démocraties occidentales.
Camille Magnard, l'exportation de la terreur, c'est justement le projet que décrypte une enquête du New York Times.
Un travail particulièrement complet et franchement effrayant, il faut bien le dire, mené par la spécialiste de l'État islamique pour le quotidien américain. Rukmini Kalimashi a patiemment assemblé le puzzle d'EMNI, une puissante cellule de l'organisation djihadiste chargée de recruter et de gérer tout un réseau d'agents dormants en Europe, des volontaires capables de mener des attentats sur commande. L'enquête se base sur les auditions par la justice d'ex-djihadistes français, allemands, anglais, mais surtout sur le témoignage recueilli en prison à Brême, témoignage d'Ari Sarfo, un Allemand de 32 ans, arrêté à son retour de Syrie, où il avait rejoint l'État islamique. Là-bas, on lui a expliqué qu'il y avait déjà assez de combattants étrangers sur place, mais que par contre, on cherchait des hommes capables de mener des attaques dans leur pays d'origine. L'Allemagne en particulier, où on lui a expliqué, hein, plusieurs aspirants kamikazes s'étaient dégonflés au moment de passer à l'action. Pour la France, alors là, pas de problème, les volontaires ne manquent pas. La question, raconte Sarfo, faisait même rire les recruteurs jusqu'aux larmes. Son récit fait donc froid dans le dos, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour lui, c'est clair, l'EMNI au sein de Daesh a carte blanche pour compléter à travers l'Europe, à travers l'Afrique, mais aussi l'Asie, un réseau très organisé de bombes humaines, un véritable trombinoscope de djihadistes prêts à être déclenchés via les réseaux sociaux ou via de simples téléphones portables. Les membres d'ailleurs du commando du Bataclan et des terrasses parisiennes, ceux de Bruxelles aussi, avaient été recrutés et formés par l'EMNI, une entité exportatrice de terreur déjà évoqué, il faut bien le dire, dans la presse française, mais jamais avec autant de détails. L'enquête du New York Times, d'ailleurs, est reprise par Slate.fr.
En France, retour sur une image qui a beaucoup circulé hier et qui a été largement instrumentalisée.
Et vous l'avez sans doute vu, cette image d'un prêtre parisien par terre dans son église, sorti de force par des CRS. C'était hier matin dans l'ancienne église Sainte Rita, dans le 15e arrondissement. Et le site d'info BuzzFeed.fr revient donc sur cette évacuation indigne, mise en musique par la catastrophe. l'atmosphère, voire même, disons-le franchement, par la fachosphère. Première règle pour bien instrumentaliser une info, nous dit BuzzFeed, surtout ne pas rappeler le contexte. Le fait, par exemple, que l'évacuation de cette église avait été demandée par une association catholique, qu'elle aurait dû avoir lieu cette évacuation depuis des mois, mais que certains militants, donc très proches de l'extrême droite radicale, Action Française, Riposte Laïque, Radio Courtoisie, s'y étaient opposés. Ce sont eux qui ont fait monter la sauce hier sur les réseaux sociaux en multipliant les parallèles franchement hasardeux avec Saint-Étienne-du-Rouvray. Enfin, BuzzFeed démonte les fausses infos qui ont circulé. Non, l'église n'était pas protégée au titre du patrimoine. Non, l'église n'était plus consacrée, donc plus aucune messe officiellement ne s'y déroulait. Et non, à la place de l'église ne va pas être construit un simple parking, mais un bâtiment de 20 appartements, dont un pourcentage de logements sociaux. Le plus surprenant, finalement, quand on lit cet article de BuzzFeed, c'est de voir tous ces tweets d'élus politiques qui ont repris et véhiculé toute cette intox. On citera entre autres Éric Ciotti, Frédéric Lefebvre du Parti Les Républicains, aux côtés de noms qui dénotent moins, il faut bien le dire, dans une telle opération comme ceux de Marine Le Pen ou de Robert Ménard.
L'Humanité prend ce matin fait et cause pour la caissière d'un supermarché de Tourcoing.
Auchan, le licenciement qui scandalise, titre le journal qui revient sur cette histoire qu'on vous racontait dès mardi, ici sur France Inter. L'employée de caisse affirme qu'elle a été virée pour un écart de caisse de 80 centimes, le prix d'un pot de sauce tomate qu'elle a autorisé une cliente à mettre dans son cabas sans l'avoir passé au scanner. La cliente a été rattrapée par un agent de sécurité, elle a finalement payé sa boîte, mais la caissière, elle, a été licenciée pour manipulation frauduleuse. La direction d'Auchan Tourcoing l'accuse en fait d'autres larcins, des bons de réduction mal utilisés, des paquets de nouilles retirés d'une facture. Et le syndicat CGT qui soutient la caissière explique qu'avec ces caisses automatiques, vous savez, où l'on scanne soi-même ses produits, les caissières doivent à la fois faire leur travail, mais aussi de la prévention et de la sécurité. En tout cas, cette affaire à Tourcoing a pris des proportions inattendues. L'UMA nous explique que depuis, de nombreux clients indignés par ce licenciement font savoir que désormais, eh bien, ils iront acheter ailleurs leurs nouilles et leurs sauces tomates. À la rubrique Faits divers, enfin, dans Aujourd'hui en France, on fait la connaissance d'une dynastie d'escrocs spécialisés dans l'arnaque aux prêtres. Père et fils domiciliés au Havre avaient peaufiné la combine. Ils appelaient au téléphone des curés, en général vieillissants, un peu partout en France. Ils se faisaient passer pour de bons paroissiens qui s'étaient mariés il y a quelques années dans l'église de leur victime. Ils lui expliquaient qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois, à nourrir leur famille, et ils en appelaient à la charité chrétienne, en l'occurrence sous forme de chèques ou de mandats postaux. Eh bien, ça marchait. 47 prêtres arnaqués par le fils, Kevin, avec un montant de préjudice estimé à 100 000 euros. Le père, Michel, lui, purge 37 années de prison pour les mêmes faits. C'est lui qui avait appris la technique à son fiston. Au nom du père et du fils, donc, amen et bonne journée.
C'était la revue de presse de Camille Magnard.